Comment expliquez-vous que, lors des dernières décennies, on ait pu constater un grand nombre de débats entre chrétiens et musulmans concernant leurs croyances?
Je crois que c'est surtout parce que nous avons plusieurs points en commun. Nous croyons en un Créateur qui a envoyé plusieurs prophètes. Nous croyons en Jésus en tant que Messie, ainsi qu'à la parole de Dieu que les Juifs ont nié. Notre Saint Coran mentionne de la sourate la famille de Imran, Al-Imran. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Des débats ont eu lieu partout en Europe, au Canada, aux États-Unis et en Australie. Même le Vatican s'est immiscé dans le débat religieux lors de discussions qui ont eu lieu entre des théologiens du Vatican et des savants musulmans d'Égypte, à Rome en 1970 et au Caire en 1974 et en 1978. Des débats ont aussi eu lieu entre des théologiens du Vatican et des savants d'Arabie saoudite à Rome en 1974 à plusieurs reprises. Des musulmans ont été invités par des universités et des églises pour présenter l'islam.
Si le christianisme est déjà présent depuis 2 millénaires et l'islam depuis plus de 1400 ans, pourquoi n'y a-t-il pas eu de débat lors des siècles précédents?
Les 3 ou 4 siècles précédents, la plupart des pays musulmans en Afrique et en Asie furent colonisés par l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Beaucoup de colons missionnaires chrétiens essayèrent de convertir le plus de musulmans possible et tous les moyens étaient bons. Ils offraient à la population, en général très pauvre, des traitements médicaux, des vêtements, de la nourriture et de l'emploi. Mais seul un petit nombre de musulmans fut converti. Une petite partie de l'élite a été convertie en christianisme à cause d'un préjudice qui leur faisait croire que le christianisme les rapprocherait de la civilisation et engendrerait le progrès scientifique. Elle avait une mauvaise conception, car ce progrès n'a eu lieu en Europe qu'après la séparation de l'Église et de l'État. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de musulmans d'Asie et d'Afrique émigrèrent vers l'Occident en tant qu'ouvriers qualifiés et non qualifiés. C'est ainsi qu'ils entrèrent en contact avec les chrétiens. Les étudiants ont également joué un rôle très actif dans l'introduction de l'islam.
Voyez-vous d'autres raisons pour lesquelles ces débats ont lieu beaucoup plus souvent qu'auparavant?
Je crois que le fossé entre les deux parties est en train de se réduire, car chacun devient plus tolérant. Toutefois, ceci n'empêche pas de le faire qu'ils sont en compétition pour avoir le plus de convertis possible. Je me souviens de mon professeur chrétien qui nous disait « Mohammed, l'imposteur, l'utopiste, l'épileptique. De nos jours, on ne trouve presque plus d'écrivains qui décrivent l'islam d'une telle façon. En tant que musulmans, nous nous sentons beaucoup plus proches des chrétiens que les juifs et des mécréants. Comme l'a dit le Coran dans la sourate « La table servie », Al-Ma'ida, tu trouveras certainement que les juifs et les polythéistes sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, c'est-à-dire des personnes entièrement dévouées au service de Dieu, comme le sont les musulmans, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Certaines églises chrétiennes ont fait d'énormes progrès en reconnaissant pour la première fois dans l'histoire que Mohammed, que la paix et le salut du Dieu soient sur lui, est descendant d'Ismaïl par son second fils Kedar. Le dictionnaire de la Bible d'Avi, 1980, Davi Dictionary of the Bible, parrainé par le Conseil de l'éducation chrétienne de l'église presbytérienne aux États-Unis, mentionne sous le mot Kedar une tribu descendante d'Ismaïl. Genèse 25-13. Le peuple de Kedar était Plinèse Cédré, et de leur tribu surgit finalement Mohammed. L'Encyclopédie internationale standard de la Bible cite A.S. Fulton de la façon suivante. De toutes les tribus ismaélite, Kedar est sans doute la plus importante et c'est pour cette raison que par la suite, le nom a été utilisé pour décrire toutes les tribus sauvages du désert. C'est par Kedar que les généalogistes musulmans retrace la descendance de Mohammed à partir d'Ismaïl. De même, le dictionnaire de la Bible Smith, ne voulant pas rester en retrait par rapport aux autres, écrit Kedar, second fils d'Ismaïl, Genèse 25, 13. Mohammed trace son ascendance jusqu'à Abraham à travers la célèbre tribu de Quraysh qui trouve son origine chez Kedar. Les Arabes, dans le Hijaz, sont appelés Bini Harb, hommes de guerre, et étaient ismaélites depuis leur début. Palgrave dit qu'aujourd'hui leur langue est aussi pure que dans le temps où le Coran fut écrit. 610 après G-C et qu'elle est restée invariable durant plus de 1200 ans, une belle preuve de la permanence des institutions orientales. L'atout majeur que les émigrants musulmans ont apporté à l'Occident n'est pas leur main-d'œuvre, mais bien l'islam qui actuellement est en train de prendre racine ici. Beaucoup de mosquées et de centres islamiques sont fondés et beaucoup de gens se reconvertissent à l'islam. Je préfère utiliser le mot « reconvertir » au lieu de « convertir », car tout être humain est né en soumission à Dieu, c'est-à-dire l'islam. C'est la nature de chaque nouveau-né. Ce sont les parents ou la communauté qui le convertissent au judaïsme, au christianisme, à l'athéisme ou à d'autres croyances. Ceci est également la preuve que l'islam ne se répand pas par l'épée, mais simplement par la propagation d'individus ou de groupes musulmans. Nous n'avons pas de mission spéciale organisée comme c'est le cas avec les missions chrétiennes. Entre 1934 et 1984, la population mondiale s'est accrue de 136%, le christianisme de 47% et l'islam de 235%. Voir de Plain Truth, février 1984, dans l'édition du 50e anniversaire. Citation de The World, Almanach and Book of Facts, 1935 et Reader's Digest Almanach and Yearbook 1983.
Si les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, prétendent émaner du même et unique créateur, pourquoi diffèrent-elles?
Tous les prophètes, d'Adam à Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, ont été envoyés avec le même message, à savoir la soumission de l'homme à Dieu. Cette soumission en arabe veut dire islam. Islam veut également dire paix. La paix entre le Créateur et ses créatures. Contrairement au non-judaïsme et christianisme, le nom islam a été donné par Dieu. Le Créateur lui-même, comme il est mentionné dans la sourate la table servie, Al-Ma'ida. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agréerai l'islam comme religion pour vous. Dans la Bible, on ne retrouve ni le nom judaïsme, ni le mot christianisme, même pas dans un dictionnaire de la Bible. Aucun prophète israélite n'a mentionné le mot judaïsme. Jésus n'a jamais prétendu avoir établi le christianisme sur terre et ne s'est jamais appelé chrétien. Le mot chrétien n'est mentionné que trois fois dans le Nouveau Testament et il a été utilisé pour la première fois par des païens et des juifs à Antioche en 43 AD. Bien après que Jésus ait quitté cette terre. Lisez Actes 11, 26. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Plus tard, le terme fut utilisé par la roi Agrippa II en s'adressant à Paul dans Actes 26, 28 et Agrippa dit à Paul « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Par conséquent, le nom de chrétien fut d'abord utilisé par des ennemis et non par des amis. Finalement, c'est Pierre qui utilise le terme dans sa lettre pour réconforter les croyants dans 1 Pierre 4, 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Le premier musulman sur terre n'était pas Mohammed, mais Abraham, qui s'est entièrement soumis à Dieu. Mais l'islam en tant que mode de vie a été révélé bien avant Abraham à d'autres prophètes, comme Adam et Noé. L'islam survint après comme le mode de vie pour l'humanité entière.
Comment Abraham peut-il être musulman? Tout le monde sait que c'est un juif.
Un juif? Qui vous a raconté cela?
C'est ce que nous apprenons. Cela devrait aussi être confirmé dans la Bible.
Pourriez-vous me montrer dans quel passage la Bible mentionne qu'Abraham est juif? Si cela vous prend trop de temps, laissez-moi vous aider. Lisez Genèse 11, 31.
Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent.
Donc Abraham, qui était né en Ur en Chaldée, ne pouvait être juif. Tout d'abord, parce que Ur en Chaldée se trouvait en Mésopotamie, qui aujourd'hui fait partie de l'Irak. Il était donc plus arabe que juif. Deuxièmement, le nom juif est apparu après l'existence de Juda, l'arrière-petit-fils d'Abraham. Voir l'arbre généalogique, page suivante. Continuez à lire Genèse 12, 4-5. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham a donc émigré vers Canaan à l'âge de 75 ans, et la Bible mentionne clairement qu'il était un étranger. Dans Genèse 17, 8, « Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Lisez maintenant Genèse 14, 13.
Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu.
Comment pouvez-vous dire qu'Abraham était juif alors que la Bible le décrit comme un hébreu? Ce qui veut dire un homme de l'autre côté, de l'Euphrate. Hébreu veut également dire appartenir à Héber, un descendant de Shem. Lisez maintenant Genèse 32, 28 pour savoir ce qui est passé avec le nom de Jacob après avoir lutté contre un ange.
Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur.
Abraham était donc un hébreu. Les descendants de Jacob étaient des Israélites composés de 12 tribus. Juda était surnommé juif, et c'est pourquoi, à l'origine, seuls les descendants de Juda furent appelés juifs. Si vous voulez savoir qui était réellement Moïse, lisez Exode 6, 16, 20.
Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité. Gershon, Kehat et Merari, fils de Kehat. Amram. Amram prit pour femme Jochébed, sa tante. Elle lui enfanta Aaron et Moïse.
Par conséquent, Moïse ne pouvait être juif, car il ne descendait pas de Juda, mais de Lévi. Moïse était le législateur, la Torah et la loi pour les enfants d'Israël.
Comment expliquez-vous cela?
Nous prenons le Saint-Coran comme référence. À l'aide du contexte coranique, il est possible d'expliquer la Bible et de corriger les préjugés juifs et chrétiens. C'est le dernier livre révélé qui n'a jamais été corrompu ou falsifié. Son contenu a été garanti par Dieu dans la sourate la vache, Al-Baqarah. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, ainsi que dans la sourate Al-Hijr. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Ce verset est un défi à l'humanité. Il n'y a aucun doute que plus de 1400 ans, sans passer sans qu'un seul mot du Coran ne soit changé. Bien que les mécréants aient fait tout leur possible pour le changer, ils ont échoué misérablement dans tous leurs efforts, comme il est mentionné dans ce saint verset. Et c'est nous qui en sommes gardiens, et par Dieu, l'a préservé. Contrairement au Coran, les autres livres, la Torah, les psaumes, les évangiles, etc., ont subi des modifications sous forme de compléments, omissions ou altérations du texte original.
Que dit le Coran au sujet d'Abraham et de Moïse, et qui peut aussi être déduit de la Bible?
Dans la sourate la famille d'Imran, verset 65, « Ô vous les gens du livre, les juifs et les chrétiens, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas ?» Et dans la sourate la famille d'Imran, verset 67, Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des polythéistes. Dans la sourate la vache, verset 140, où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis, est-ce vous les plus savants ou Allah? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient de la part d'Allah? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Il est évident qu'il n'était pas juif ou chrétien, car le nom juif est apparu après Juda et le nom chrétien a fait son apparition bien après le départ de Jésus.
C'est étrange d'entendre le nom d'Allah. Pourquoi ne dites-vous pas Dieu lorsque vous parlez en français?
En effet, le nom Allah peut sembler bizarre pour des non-musulmans, mais c'est le nom qui a été utilisé par tous les prophètes, d'Adam jusqu'à Mohammed. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux. Il s'agit d'une contraction des deux mots arabes, « El » et « Ilah ». C'est-à-dire le Dieu. En omettant la lettre « El », vous obtenez le mot « Allah ». Suivant sa position dans la phrase arabe, le nom peut prendre la forme Allah, qui est proche du nom hébreu du Créateur, à savoir Elohah. Mais les Juifs utilisent de façon erronée la forme du pluriel, Elohim, qui désigne plus d'un dieu. Le mot Allah semble plus proche du terme araméen pour Dieu qu'utilisait Jésus, à savoir Allah. Alors que le nom Allah semble bizarre pour les non-musulmans, il ne l'a jamais été pour aucun prophète, d'Adam à Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, car ils propageaient tout le même islam, c'est-à-dire la soumission totale, et le nom Allah désigne le nom personnel de l'être suprême. Le nom n'est soumis ni au pluriel ni au genre, il est donc impossible de parler d'Allah ou de Allah au masculin ou au féminin, comme c'est le cas avec Dieu, où Dieu est déesse. C'est troublant d'utiliser le mot Allah, alors que beaucoup de chrétiens francophones prennent toujours Jésus pour Dieu. Même le mot créateur est troublant parce que beaucoup de chrétiens prétendent que Jésus a créé le monde. Non seulement le nom Allah est étrange, mais aussi la façon dont les musulmans adorent Allah avec l'ablution, l'inclinaison, l'agenouillement, la prosternation et le jeûne. Tout cela paraît étrange aux non-musulmans. Mais ce n'était pas étrange pour tous les prophètes. Alors que l'ablution, laver le visage, les bras, les pieds et humidifier les cheveux avant la prière a été abandonnée par les chrétiens modernes, elle est toujours exigée chez les musulmans et même chez les prophètes précédents, comme vous pouvez le constater dans les passages suivants de la Bible. Exode 40, 31-32. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavaient les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Bien que Paul ait apporté beaucoup de modifications au christianisme, il a toujours respecté l'ablution comme il est mentionné dans Actes 21-26. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux. Les femmes musulmanes font la prière avec la tête couverte, comme dans les Corinthiens 11-5-6. Et 11-13, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé, car si une femme n'est pas voilée, qu'il se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'il se voile, jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Les musulmans prient en s'inclinant, en s'agenouillant, en se prosternant et sans chaussures comme le faisait le prophète. Psaume 95-6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Josué 5-4. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Les Rois 18-42. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre et mit son visage entre ses genoux. Nombre 26. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Genèse 17-3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, etc. Exode 3-5 et Actes 7-33. Dieu dit à Moïse, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Un chrétien aurait des frissons s'il entendait que le pèlerinage ou le hajj, comme il est fait aujourd'hui par les musulmans en tournant autour de la pierre sacrée, Kaaba, à la Mecque, est quelque chose qui faisait de nombreux prophètes, même des prophètes israélites.
Pourtant, je n'ai jamais lu le mot pèlerinage ou pierre sacrée dans la Bible.
Ce sont des mots qui sont mentionnés plusieurs fois dans la Bible, mais auxquels on ne prête pas attention. 1. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fond son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de lui pour son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, c'est-à-dire la maison du Seigneur, Genèse 28, 18-19. 2. Après plusieurs années, le même prophète Jacob reçut l'ordre de Dieu d'aller à Bethel, Genèse 35-4 et 35-14-15. Jacob retira tous les dieux étrangers avant de se rendre sur place. Plus tard, le prophète Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, retira tous les idoles autour de la pierre sacrée Kaaba à la Mecque. 3. Un autre monument fut construit par Jacob et son beau-père Laban, Genèse 31, 45-49.
Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et firent un monceau. Et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar, Saadota, et Jacob l'appela Galette. On l'appelle aussi Mitzpa parce que Laban dit, « Que l'Éternel veille sur toi et sur moi. » 4. Jephté et Ammon étaient en guerre. Jephté fit un vœu à Dieu, à Mitzpé de Galaad, qui sacrifiera sa fille unique s'il gagnait. Il gagna et brûla sa fille vive comme offrande au Seigneur. Juge 11, 29-39. 5. 400 000 guerriers tirant l'épée des 11 tribus d'Israël ont juré devant le Seigneur à Mitzpé d'exterminer les tribus de Benjamin. Juge 20 et 21. 6. Les enfants d'Israël sans Samuel ont juré à Mitzpé de détruire leur idole s'ils vainquaient les Philistines. I Samuel 7. 7. Toute la nation d'Israël est rassemblée à Mitzpé quand Samuel fut nommé roi d'Israël. 1 Samuel 10. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a plus aucun Mitzpé au monde à part la toute première dans la sainte ville de la Mecque, construite par Abraham et son fils Ismaël. De qui le prophète Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soit sur lui, est un descendant. Les musulmans sont réellement les disciples de tous les prophètes. Je pourrais vous raconter d'autres choses à propos des musulmans. L'islam et Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soit sur lui. Dans la Bible, mais pourquoi voulez-vous savoir tout cela si vous n'êtes pas à la recherche de la vérité?
Je suis convaincu de ma propre croyance en tant que chrétien, mais je suis stimulé d'apprendre plus sur les deux religions. Parfois, je me sens ridiculisé en tant que chrétien après avoir lu des livres écrits par des musulmans. Je suis convaincu de ma propre croyance en tant que chrétien, mais je suis stimulé d'apprendre plus sur les deux religions. Parfois, je me sens ridiculisé en tant que chrétien après avoir lu des livres écrits par des musulmans.
Cela vous a-t-il influencé dans votre vie spirituelle?
Oui, je vais moins à l'église qu'avant. J'ai lu des livres écrits par des musulmans en cachette. Je me suis renseigné auprès de musulmans sur des sujets qui ne m'étaient pas clairs. Mais je n'ai pas été satisfait jusqu'à présent. Je cherche une religion à laquelle je peux me fier, une religion qui peut me donner la tranquillité d'esprit, qui est scientifiquement acceptable, et dans laquelle je dois pas simplement croire aveuglément.
C'est ainsi que ça devrait être. J'apprécie votre attitude. Mais il ne nous est pas permis de séduire qui que ce soit. Nous propageons le message seulement à ceux qui veulent nous écouter.
Mais je suis libre de choisir la religion qui me plaît et personne ne pourra m'en empêcher.
Tout à fait. Il n'y a aucune contrainte dans la religion.
Pourquoi alors les musulmans cherchent-ils à convertir les gens à leur religion?
Tout comme les chrétiens ont demandé aux juifs d'accepter Jésus comme Messie, nous les musulmans demandons aux chrétiens, aux juifs et à toute l'humanité d'accepter Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, comme le sceau de tous les prophètes. Notre prophète Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Transmettez mon message, ne fût-ce qu'une seule ayah, verset du Saint-Coran. » Ésaïe aussi mentionne dans le chapitre 21-13, oracle sur l'Arabie, ce qui veut dire que c'est la responsabilité des musulmans arabes, maintenant bien sûr de tous les musulmans, de propager l'islam. Ésaïe a dit ceci après avoir vu, dans une vision, une cavalerie sur des ânes et une cavalerie sur des chameaux, 21-7. Il vit une cavalerie. Des cavaliers deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et il était attentif, très attentif. La cavalerie sur les ânes s'avérait être Jésus qui entra à Jérusalem, Jean 12, 14, et Matthieu 21, 5. Qui était alors la cavalerie sur les chameaux? Ça ne pouvait être que Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, qui était venu 600 ans après la venue du Messie. Si ceci n'est pas accepté, alors cette prophétie n'a toujours pas été remplie.
Vos explications me stimulent à mieux réviser la Bible. J'aimerais avoir encore d'autres discussions avec vous.
Il faut savoir que le succès dans ce bas monde ne garantit pas le succès dans l'au-delà. L'au-delà est bien meilleur et plus durable que cette vie. Les gens deviennent de plus en plus matérialistes et irréligieux. J'espère qu'on se reverra encore plusieurs fois pour discuter les différences de manière franche et sans préjugés. L'islam est basé sur la raison et il ne faut pas l'accepter aveuglément. Même votre Bible veut dire 1 Thessaloniciens 5, 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon.
Vous venez de parler de la cavalerie sur les chameaux d'Ésaïe, et vous en concluez qu'il s'agissait de Mohammed. Est-ce que Mohammed est alors prophétisé dans la Bible?
Bien sûr.
Dans l'Ancien ou le Nouveau Testament?
Dans les deux, mais vous ne pourrez le reconnaître dans la Bible tant que vous ne croirez pas dans l'unicité de Dieu, c'est-à-dire tant que vous croyez dans la Trinité, la divinité de Jésus, la descendance divine de Jésus, le péché original et la rédemption. Ce sont toutes des doctrines créées par l'homme. Jésus avait prophétisé, Matthieu 15, 9, que les gens allaient l'adorer en vain et qu'il allait croire à des doctrines créées par l'homme. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme.
Êtes-vous sûr que la Bible est sacrée?
Oui, j'en suis persuadé. C'est la parole de Dieu.
Lisez ce que dit Luc concernant ces écritures dans 1, 2 et 3.
Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile.
Si Luc lui-même dit qu'il n'était pas un témoin oculaire et que les connaissances qu'il a amassées venaient de témoins oculaires et non pas par inspiration divine, croyez-vous toujours que la Bible est la parole de Dieu?
Peut-être seulement cette partie-ci n'est pas la parole de Dieu.
L'histoire a montré que la Bible a connu des modifications au cours des siècles. La version à un standard révisé, 1952 et 1971, The Revised Standard Version, la nouvelle Bible standard américaine, The New American Standard Bible, et la nouvelle traduction mondiale des Saintes Écritures, The New World Translation of the Holy Scriptures, ont toutes supprimé certains versets au regard de la version du roi James, King James Bible, Reader's Digest, a réduit l'Ancien Testament de 50% et le Nouveau Testament de plus ou moins 25%. Il y a quelques années, des théologiens chrétiens ont voulu supprimer tous les misogynies de la Bible. Est-ce que ça veut dire que la Bible ne peut contenir des erreurs?
Oui, en effet. Mais de quelles erreurs voulez-vous parler?
Supposez qu'un verset mentionne qu'une certaine personne est décédée à l'âge de 50 ans et qu'un autre verset mentionne que cette même personne est décédée à l'âge de 60 ans. Est-ce que les deux énonciations peuvent être correctes?
Non, les deux ne pourront jamais être correctes. Il y a une qui peut être exacte ou bien les deux sont incorrectes.
Si un livre saint contient des versets contradictoires, le considérez-vous encore comme étant un livre saint?
Bien sûr que non, parce qu'une écriture sainte est une révélation divine. Et il devrait donc être impossible qu'elle contienne des erreurs ou des versets contradictoires.
Alors, ce n'est plus une œuvre sainte.
Tout à fait. La sainteté disparaît.
Si c'est le cas, il est impossible de vous y fier à 100%. Quelles pourraient alors être les causes?
Il peut s'agir d'une erreur dans la transcription, de modification délibérée par des copistes, d'omission ou de complément.
Si la Bible contenait des versets contradictoires, la considéreriez-vous encore comme étant sainte?
Comme je ne vois pas de versets contradictoires dans la Bible, je crois que la Bible est sainte.
La Bible contient beaucoup de versets contradictoires.
Dans l'Ancien ou le Nouveau Testament?
Dans les deux testaments, voici quelques exemples de versets contradictoires. 2 Samuel 8, 4. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. 1 Chronique 18, 4. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Question, 700 ou 7 000? 2 Samuel 8, 9 et 10. Toï, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu, car Toï était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. 1 Chronique 18, 9, 10. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadarézer, roi de Tsoba, et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour le féliciter d'avoir attaqué Hadarézer et de l'avoir battu, car Tohu était en guerre avec Hadarézer, et l'envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain. Question. Tohu ou Tohu,
Joram ou Adoram, Adadézer ou Adarézer. 2 Samuel 10, 18. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Scobach, qui mourut sur place. 1 Chronique 19, 18. David leur tua les troupes de 7 000 chars et 40 000 hommes de pied. Et il fit mourir Scophach, chef de l'armée. Question. 700 chars ou 7 000 chars? 40 000 hommes ou cavaliers? Scobach ou Scophach? 2 Rois 8, 6. Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. 2 Chroniques 22, 2. Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Question. 22 ans ou 42 ans? 2 Rois 24, 8. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan, de Jérusalem. 2 Chroniques 36, 9. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fut ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Question. 18 ou 8 ans? 3 mois ou 3 mois et 10 jours? 2 Samuel 23, 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bathshebet, le Tachkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fait périr en une seule fois. 2 Chroniques 11, 11. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jaskobem, fils de Hasmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes, qu'il fait périr en une seule fois. Question. Tachkémonite ou Hasmoni? 800 ou 300? 2 Samuel 24, 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » 1. Chronique 21, 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Question. Est-ce que l'Éternel, Dieu de David, est alors Satan? Que Dieu nous en préserve. 2 Samuel 6, 23. Or, Michal, fille de Saul, n'a point d'enfant jusqu'à jour de sa mort. 2 Samuel 21, 8. Mais le roi prit les deux fils que Rizpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saul, Harmoni et Mephibosheth. Et les 5 fils que Michal, fille de Saul, avait enfant à Adriel de Meola, fils de Barzillai. Question. Est-ce que Michal avait des enfants ou non? Note. Le nom Michal dans 2 Samuel 21, 8 est toujours présent. Dans la version du roi James et dans la nouvelle traduction mondiale des Saintes Écritures, The New World Translation of the Holy Scriptures, qui est utilisé par les témoins de Jéhovah, mais il a été remplacé par Merab dans la nouvelle Bible standard américain de 1973, The New American Standard Bible.
Je ne l'ai jamais vu. Y en a-t-il encore beaucoup?
Vous en voulez encore plus? N'est-ce pas encore assez pour nier la sainteté de la Bible? Regardons Genèse 6:3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Mais quel âge avait Noé lorsqu'il mourut? Il avait plus de 120 ans. Lisons Genèse 9, 29. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Certains théologiens maintiennent que ce n'est pas l'âge maximal de l'homme qui atteindra 120 ans, mais que le déluge viendrait dans 120 ans. Même ceci ne correspond pas, parce qu'au moment du déluge, Noé aurait dû avoir 620 ans. 500 plus 120, alors que la Bible mentionne 600 ans. Écoutez ces versets. Genèse 5, 32. Noé âgé de 500 ans. Genèse 7, 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Le christianisme croit que Dieu créa l'homme à son image, blanc, noir ou autre, mâle ou femelle. Nous pouvons lire ceci dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Mais ceci est contredit dans Isaïe 40, 18 et 40, 25. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. C'est aussi le cas dans Psaume 89, 6. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Et dans Jérémie 10, 6, 7, nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, nul est semblable à toi.
Mais tout cela se trouve dans l'Ancien Testament.
Regardons maintenant le Nouveau Testament, Jean 5, 37. Vous n'avez jamais entendu de sa voix, vous n'avez point vu sa face. Jean 14, 9. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Jean 5, 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Jean 8, 14. Jésus leur répondit, « Quel que soit le témoignage je rends de moi-même, mon témoignage est vrai. » Voici seulement quelques-unes des contradictions dans le Nouveau Testament. Vous en trouverez d'autres si nous discutons ensemble sur la vérité des doctrines du christianisme moderne, comme la Trinité, la divinité de Jésus, la descendance divine de Jésus, le péché originel et la rédemption. Sans mentionner l'humiliation de beaucoup de prophètes dans la Bible, en les décrivant comme des adorateurs de faux dieux et en les accusant d'inceste, viol et adultère.
Où trouvez-vous cela dans la Bible?
Noé est décrit en état d'ivresse, à tel point qu'il se montre nu en présence de ses fils adultes. Genèse 9, 23-24. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Salomon fut non seulement accusé d'avoir un grand haram, mais aussi d'avoir adoré de faux dieux. 1 Roi 11, 9, 10. L'Éternel fut irrité contre Salomon, lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Aaron, le prophète qui a accompagné son frère Moïse chez le Pharaon, fut accusé d'avoir fabriqué le veau d'or pour que les Israélites l'adorent. Exode 1, 4. Il, Aaron, les anneaux d'or reçus de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en fente. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Vous pouvez aussi lire sur l'inceste du prophète Lot avec ses deux filles, Genèse 19, 36. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Vous pouvez aussi dire qu'un prophète était marié avec deux de ses sœurs en même temps, Genèse 29, 28. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Encore un autre prophète qui est accusé d'adultère dans 2 Samuel 11, 4, 5. Et David envoyait des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, la femme d'Uri. Après s'être purifié de sa souillure, il retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et il fit dire à David, « Je suis enceinte. » Ma question est la suivante. Comment David peut-il être accepté dans la généalogie de Jésus si celle-ci a commencé avec une personne qui a commis l'adultère? Que Dieu nous en préserve. Est-ce que ceci n'est pas en contradiction avec ce qui est mentionné dans Deutéronome 23:2? Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Une autre accusation d'inceste est portée contre Amnon, le fils David, qui aurait violé sa demi-sœur Tamar, 2 Samuel 13, 14. Mais il, Amnon, ne voulut pas l'écouter, et lui, Tamar, fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Absalom aurait commis d'autres viols multiples contre les concubines de David, comme nous pouvons le lire dans 2 Samuel 16, 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Je crois qu'aucune personne au monde ne pourrait faire une chose pareille, même pas un barbare. Un autre cas d'inceste est celui de Juda avec Tamar, sa belle-fille. Lorsque Juda partait à Timna pour tendre ses brebis, il vit Tamar et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Genèse 38-18. Il, Juda, les, le cachet, le cordon et le bâton, lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Malgré le fait que juifs et musulmans soient des ennemis déclarés, aucun musulman pensera à écrire un livre où il dénigrera un prophète israélite tel que Juda, David, Jésus. Que la bénédiction et la paix de Dieu soient sur eux pour toujours. En les accusant de viol, adultère, inceste ou prostitution, tous les prophètes ont été envoyés par Dieu pour la guidance de l'humanité. Croyez-vous que Dieu aurait envoyé les mauvaises personnes pour guider?
Je ne le pense pas, mais ne croyez-vous pas à la Bible?
Nous croyons en toutes les saintes écritures, mais uniquement dans leur forme originale. Dieu a envoyé à chaque nation un prophète pour avertir leur peuple, et certains parmi eux avec une écriture qui servait comme guide pour la nation en question. Le Sahaïf est venu avec Abraham, la Torah, une partie de l'Ancien Testament, avec Moïse, le Zabour, le Psaume, avec David et l'Évangile, Nouveau Testament, avec Jésus. Aujourd'hui, aucun de ces écritures n'existe encore de leur forme originale avec le texte d'origine. Et comme Dieu l'a voulu dans son plan original, il a finalement envoyé Mohammed, que la paix soit sur lui, en tant que sceau de tous les prophètes, avec le Saint-Coran comme guide pour l'humanité partout et pour tous les temps. Jésus a dit lui-même qu'il était uniquement envoyé pour le peuple d'Israël, Matthieu 15-24. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Encore Matthieu 1-21. Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il a même dit qu'il n'était pas venu pour faire des changements, mais pour accomplir. Matthieu 5-17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tout que le ciel et la terre ne passeront point, et ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Mais dans Marc 16, verset 15, Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. »
Ceci contredit ce qui est mentionné dans Matthieu 15-24 et dans Matthieu 1-21. Deuxièmement, Marc 16-9-20 a été supprimé dans beaucoup de Bibles. La nouvelle Bible standard américaine, The New American Standard Bible, a mis cette partie entre parenthèses et a ajouté le commentaire suivant. Certains des plus anciens manuscrits omettent les versets de 9 à 20. La nouvelle traduction mondiale des Saintes Écritures, The New World Translation of the Holy Scriptures, qui est utilisée par les témoins de Jéhovah, mentionne que certains anciens manuscrits ajoutent une conclusion longue ou brève après Marc 16-8, mais que d'autres suppriment cette partie. Et dans la version standard révisée, The Revised Standard Version, on peut lire dans une note en bas de page certaines autorités parmi les plus anciens clôturent le livre à la fin du verset 8. Ceci voudrait aussi dire que la résurrection n'est pas vraie comme il est mentionné dans Marc 16-9.
Mais Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez faites de toutes les nations des disciples. »
Toute nation doit être comprise comme toutes les 12 tribus d'Israël, sinon cela contredit Matthieu 15-24 et Matthieu 1-21 dans la nouvelle Bible standard américaine, The New American Standard Bible, et la nouvelle traduction mondiale des Saintes Écritures, The New World Translation of the Holy Scriptures, ce n'est pas traduit par toute nation, mais par toutes les nations, ce qui veut dire les 12 tribus d'Israël. Que pensez-vous maintenant de la Bible?
Je dois avouer que ma croyance est ébranlée.
Je suis persuadé que vous serez convaincu par l'authenticité de l'islam après avoir discuté de nos différences. Croyez-vous toujours à la Trinité?
Bien sûr. C'est écrit dans la première épître de Jean 5, versets 7 à 8. C'est qu'ils sont trois à rendre témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et trois sont pour un même. Et il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord.
Oh, cela se trouve dans la version du roi James, autorisée en 1611, qui a d'ailleurs formé la preuve la plus évidente pour la doctrine de la Trinité. Maintenant la partie, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont pour un même, a été supprimée dans la version standard révisée de 1952 et 1971, The Revised Standard Version, ainsi que dans beaucoup d'autres Bibles, car c'était une paraphrase qui avait empiété sur le texte grec. Dans la nouvelle Bible standard américaine, The New American Standard Bible, on lit dans 1 John 5, 7, 8, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Aussi dans la nouvelle traduction mondiale des Saintes Écritures, The New World Translation of the Holy Scriptures, utilisée par des témoins de Jéhovah, vous trouverez, il y en a ainsi trois à témoigner, l'Esprit, l'eau, le sang, et ces trois tombent au même bout. Je peux comprendre que vous n'êtes pas au courant que cette partie fut supprimée, mais je me demande pourquoi beaucoup d'ecclésiastiques et de prédicateurs l'ignorent toujours. La Trinité n'est pas biblique. Le mot Trinité ne figure même pas dans la Bible, ni dans les dictionnaires de la Bible. Le terme n'a jamais été enseigné, ni mentionné par Jésus. Il n'y a aucun fondement et aucune preuve dans la Bible pour pouvoir accepter la Trinité.
Pourtant, dans Matthieu 28, verset 19, nous trouvons « Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Cette partie n'a pas encore été supprimée. N'est-ce pas une preuve de la Trinité?
Non. Lorsque vous dites que trois personnes sont assises ensemble en train de manger, cela veut-il dire qu'ils forment une seule personne? Non. L'énonciation de la Trinité par Athanase, un diacre égyptien d'Alexandrie, fut acceptée par le Concile de Nicée en l'an 325 AD, c'est-à-dire plus de trois siècles après que Jésus soit parti. Il n'y a aucun doute que le paganisme romain a eu de l'influence dans cette doctrine, à savoir le dieu Trin. Le sabbat a été reporté à dimanche, le 25 décembre, la date d'anniversaire de leur dieu soleil. Mitra a été introduite comme date de naissance pour Jésus, bien que la Bible a clairement prédit et a interdit la décoration de sapin de Noël dans Jérémie 0:2-5. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Comme le christianisme a dévié du message de Jésus, Dieu a envoyé son dernier prophète, Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, pour réformer les changements suivants. Le calendrier julien des Romains introduisant première chrétienne, la non-prohibition du porc, la circoncision abolie par Paul, Galates 5, 2. Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira en rien. Le Saint-Coran nous avertit dans la sourate la table servie, verset 73. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Dieu est le troisième d'une trinité, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants parmi eux. Croyez-vous toujours dans la Trinité qui n'a jamais été enseignée par Jésus?
Mais Dieu et Jésus ne sont qu'un. Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi.
Lisez alors Jean 17, 21.
Afin que tous, les disciples, soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous.
Il est clair ici que Dieu et Jésus ne sont qu'un, mais que les disciples aussi ne sont qu'un en Jésus et Dieu. Si Jésus est Dieu parce qu'il est en Dieu,
Pourquoi alors les disciples ne sont-ils pas Dieu, comme ils sont tous, tout comme je suis dans Dieu? Si Dieu, Jésus et Saint-Esprit forment chacun une unité de la Trinité, alors avec les disciples, ils devraient constituer un Dieu avec 15 unités.
Mais Jésus est Dieu selon Jean 14, verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père.
Regardez maintenant le contexte. Regardez ce qui précède et suit cette phrase. Jean 14, 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jean 14, 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» C'est donc finalement Jésus qui demande à Philippe comment montrer l'apparence de Dieu aux disciples. Ce qui est impossible, il faut croire en Dieu en admirant sa création, le soleil, la lune, toute création ainsi que Jésus lui-même, qu'il faut créer par Dieu. Il dit, Jean 4, 24, « Dieu est esprit ». Et Jean 5, 37, « Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Comment pouvez-vous alors voir un esprit ?» Ce qu'ils ont vu n'était pas Dieu, mais Jésus. Paul aussi dit, Timothée 6, 16, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Ce que vous pouvez voir n'est donc jamais Dieu. Notre Saint-Coran dit sur la Tlébessio, verset 103, les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qui saisit tous les regards. Et deux, il est doux, le parfaitement connaisseur.
Pour être honnête avec vous, il est difficile de nier ce qui nous a été inculqué dès notre enfance.
Les questions suivantes vous donneront peut-être une meilleure compréhension de la Trinité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?
Le Saint-Esprit est l'Esprit divin, et c'est aussi Dieu. Nous croyons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et que le Saint-Esprit est Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a trois dieux, mais un seul.
Lisez Matthieu 1, 18.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble.
Comparez ceci avec Luc 1, 26-27.
Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, près d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
Donc dans la naissance miraculeuse de Jésus, Matthieu a mentionné le Saint-Esprit alors que Luc a mentionné l'ange Gabriel. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit ?
Le Saint-Esprit est alors l'ange Gabriel.
Croyez-vous toujours dans la Trinité ?
Alors, Dieu est Dieu, le Saint-Esprit est l'ange Gabriel et Jésus est...
Laissez-moi vous aider, Jésus est un prophète, fils Marie.
Comment pouvez-vous résoudre ce que nous appelons un mystère ?
Nous utilisons le Coran comme référence pour rectifier le changement qui en était fait par l'homme, dans les textes intérieurement révélés. Si vous croyez maintenant en un Dieu et en Jésus, fils de Marie, en tant que prophète, pourquoi ne faites-vous pas un pas en plus en acceptant Mohammed comme le dernier messager? Récitez avec moi la shahada ou l'attestation de foi d'abord en français, ensuite en arabe.
J'atteste qu'il n'est d'autre Dieu que Dieu, qui n'a aucun associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Et mes ancêtres alors, j'aimerais rester avec eux, ils étaient tous chrétiens.
Abraham a quitté ses parents et ses ancêtres lorsque la vérité, c'est-à-dire l'islam, lui fut révélée. Chacun est responsable pour lui-même. Peut-être la vérité ne leur était pas parvenue de manière aussi claire qu'elle vous est parvenue maintenant. Le Saint-Coran mentionne dans la sourate Al-Hijr « Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même ». Et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Maintenant que la vérité vous est parvenue, c'est à vous de faire vos choix.
N'est-il pas possible d'accepter aussi bien l'islam que le christianisme ?
Il n'y a pas de contrainte dans la religion, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais si vous combinez les deux croyances, vous ne vous êtes pas encore soumis à Dieu. À ce moment-là, vous serez toujours mécréant, comme il le dit dans la sourate les femmes, versets 150-152. Ceux qui ne croient pas en Dieu et en ses messagères, et qui veulent faire distinction entre Dieu et ses messagers, et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres », et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et l'incroyance. Les voilà les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Dieu et en ses messagers, et qui ne font de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Dieu est celui qui pardonne et miséricordieux.
N'est-il alors pas meilleur de ne pas faire de profession de foi ou shahada, de telle façon à ne pas prendre d'engagement?
Dès que vous atteignez l'âge adulte, vous êtes mentalement compétent et vous êtes engagé, que vous professiez la shahada ou non. Dieu n'a pas créé ce monde pour rien. Il vous a pourvu de sang pour que vous différenciez le bien du mal. Il a envoyé beaucoup de prophètes pour avertir l'homme. Nous avons été créés pour l'adorer et pour que nous puissions rivaliser entre nous des bonnes œuvres dans ce monde. Sourate les femmes, An-Nisa, verset 191. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Sourate la cité Al-Balad, verset 8-10. Ne lui, l'homme, avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies, le bien et le mal? Sourate les ventes qui éparpillent At-Tariyat, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Chaque acte qui est fait pour plaire Dieu est une adoration. Sourate la caverne, Al-Kahf, verset 7. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leur action.
Jésus est-il Dieu?
Oui, dans l'évangile selon Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Nous sommes d'accord qu'une écriture sainte ne peut contenir de contradictions. S'il y a deux versets contradictoires, alors seulement un peut être vrai, ou bien ils sont tous les deux incorrects. Mais les deux versets ne peuvent jamais être tous les deux corrects. Alors, Jésus est Dieu selon Jean 1:1. Alors combien de dieux y a-t-il? Au moins deux. Ceci est alors en contradiction avec beaucoup de passages dans la Bible. Deutéronome 4:39. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Deutéronome 6:4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Ésaïe 43:10-11. Afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Ésaïe 44:6. Ainsi parle l'Éternel, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 45:18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Dans Ésaïe 45:18, il suffit à conclure que Dieu seul était le Créateur et que personne d'autre n'a participé dans la création, même pas Jésus. Voir aussi Deutéronome 4:35, Exode 8:10, Samuel 7:22, 1er Roi 8:23, 1er Chronique 17:20, Psaume 86:8 et 89:6 et 113:5, Osée 13:4, Zacharie 14:9.
Mais tous ces versets se trouvent dans l'Ancien Testament. En trouvez-vous dans le Nouveau Testament?
Bien sûr. Lisez dans Marc 12:29 ce que Jésus a dit lui-même. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. 1 Corinthiens 8:4. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Timothée 2:5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Regardez l'expression « Jésus Christ homme ». Maintenant, vous pouvez dire que Jean 1.1 est correct et que tous ces autres versets sont faux ou l'inverse?
Difficile d'en juger.
Si nous regardons ceci maintenant d'un point de vue coranique, nous verrons que cela correspond avec ce que Jésus a dit lui-même dans la Bible. Jésus est mentionné plusieurs fois dans le Coran comme une parole de Dieu, dans la sourate les femmes, vers 39. Alors les anges l'appelèrent Zacharie pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà que Dieu t'annonce la naissance de Yahya, c'est-à-dire Saint Jean-Baptiste, confirmant d'une parole de Dieu. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. C'est à nouveau mentionné dans la même sourate les femmes, verset 45. Quand les anges dirent « Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, c'est-à-dire le Messie Jésus, fils de Marie. » Illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés de Dieu. Dans les deux versets du Saint-Coran, Jésus est aussi décrit comme une parole de Dieu, c'est-à-dire une parole venant de Dieu ou appartenant à Dieu, ce qui correspond à 1 Corinthiens 3:23. « Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Jean 1:1 aurait aussi dû écrire « Et la parole était celle de Dieu. » L'erreur a dû se faire lors de traduction de l'araméenne au grec, volontairement ou non. Dans la langue grecque, théos est Dieu, mais théou veut dire à de Dieu, c'est-à-dire appartenant à Dieu. Voir dictionnaire grec, Bible grecque, ou Muhammad dans la Bible, Muhammad in the Bible. Professeur Abdelahad Daoud, ancien évêque d'Oramia, page 16. Une différence d'une seule lettre avec d'énormes conséquences.
Pourquoi Jésus est-il appelé la parole de Dieu dans les deux Écritures?
La conception de Jésus dans l'utérus de Marie s'est faite sans intervention de sperme, mais uniquement avec le décret de Dieu, soit, comme mentionné dans la même sourate les femmes, verset 47. Elle, Marie, dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Si ainsi, dit-il, Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « soit » et il est aussitôt.
Jésus est Dieu parce qu'il est empreint du Saint-Esprit.
Pourquoi alors ne considérez-vous pas d'autres personnes qui sont également empreintes par le Saint-Esprit comme étant divines? Acte 11, 24. Car c'était Barnabé, un homme de bien, plein d'esprit, saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voir aussi Actes 6, 5, Pierre 1, 21, 2 Timothée 1, 14, 1 Corinthiens 2, 16, Luc 1, 14.
Jésus fut rempli avec le Saint-Esprit lorsqu'il était encore dans l'utérus de sa mère.
C'était aussi le cas pour Saint Jean-Baptiste, Luc 1, 13, 15. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie. « Car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni le cœur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. »
Mais Jésus pouvait faire des miracles. Il a nourri 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons.
Élisée et Élie ont fait de même. Élisée a nourri 100 personnes avec 20 pains d'orge et quelques épis de blé dans 2 Rois 4:44. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Élisée s'est porté garant de l'augmentation de lui d'une veuve, et il lui a dit dans 2 Rois 4:7 « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Voir aussi 1 Rois 17-16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Aussi 1 Rois 17-6. Les corbeaux, lui, Élie, apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et ils buvaient de l'eau du torrent.
Mais Jésus pouvait guérir la lèpre.
Aussi Élisée a dit à Naaman qui était lépreux de se baigner dans le Jourdain d'un 2 Rois 5:14, « Il, Naaman,
descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, Élisée. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur.
Mais Jésus a rendu la vue à un aveugle.
Élisée a fait de même dans 2 Rois 6, 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit. 2 Rois 6, 20. Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'il était au milieu de Samarie. Élisée aurait même été capable de rendre des gens aveugles dans 2 Rois 6, 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daignez frappa d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée.
Jésus pouvait ressusciter les morts.
Comparez ce que vous dites avec Élie dans 1 Rois 7, 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au dedans de lui, et elle fut rendue à la vie. Comparez aussi avec Élisée dans 2 Rois 4, 34. Et Élisée monta et se coucha sur l'enfant. Elle mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Même les os morts d'Élisée pouvaient rendre la vie à l'homme seulement en touchant le cadavre. 2 Rois 1, 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds.
Mais Jésus a marché sur l'eau.
Moïse a tendu ses bras vers la mer, Exode 14, 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche.
Mais Jésus pouvait exorciser le diable.
Jésus lui-même a avoué que d'autres personnes pouvaient le faire, Matthieu 12, 27 et Luc 11, 19. Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Les disciples aussi pouvaient exorciser le diable. Comme le dit Jésus dans Matthieu 7, 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Même les faux prophètes faisaient des miracles, comme l'avait prédit Jésus, Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
Mais Élisée et Élie ont fait des miracles en priant le Seigneur.
Jésus aussi a fait les miracles avec la grâce de Dieu, comme il le dit lui-même, Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même », et Luc 11, 20, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Tous les miracles réalisés par Jésus avaient déjà été faits par l'ancien prophète, disciples et même par des mécréants. Par contre, Jésus ne pouvait pas faire de miracles là où régnait l'incrédulité, Marc 6, 5 et 6. Il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant.
Mais Jésus fut ressuscité 3 jours après sa mort.
Nous parlerons plus tard de sa crucifixion parce qu'il y a tellement de controverses à ce sujet. Je dirai seulement brièvement que c'était un évangile de Paul qui n'avait jamais vu Jésus de son vivant. 2 Timothée 2:8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. L'évangile de la résurrection dans Marc 6, 9, 20 a aussi été supprimé dans plusieurs Bibles. S'il n'a pas été supprimé, il a été écrit en petit caractère ou entre parenthèses et avec un commentaire. Voir la version standard révisée, The Revised Standard Version, la nouvelle Bible standard américaine, The New American Standard Bible et la nouvelle traduction mondiale des Saintes Écritures, The New World Translation of the Holy Scriptures. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que Jésus a prétendu un jour être Dieu ou a-t-il dit un jour « Me voici, je suis votre Dieu, adorez-moi » ?
Non, mais il est Dieu et homme.
Et l'a-t-il prétendu un jour ?
Non.
En effet, il avait prédit que des gens allaient l'adorer inutilement et allaient croire en des doctrines qui n'ont pas été faites par Dieu, mais par l'homme. Matthieu 15:9. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant les préceptes qui sont des commandements hommes. Toutes les doctrines du christianisme moderne ont été créées par l'homme. La Trinité, la descendance divine de Jésus, la divinité de Jésus-Christ, le péché originel, rédemption. On peut conclure des paroles de Jésus inscrites dans le Nouveau Testament qu'il est clair qu'il n'a jamais revendiqué la divinité ou l'association avec Dieu. Je ne fais rien de moi-même. Jean 8, 28. Le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Marc 12, 29. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15, 34. Père, je remis mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. 13:32. Jésus fut d'abord appelé prophète, prédicateur de Dieu, son serviteur, Messie et plus tard, il a été élevé à Fils de Dieu et ensuite à Dieu lui-même. Utilisons maintenant un peu notre raison. Comment Dieu peut-il être né d'un mortel alors que nous sommes tous nés de mortels? Jésus dormait alors que Dieu ne dort jamais. Psaume 121:4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dieu devrait être tout-puissant. Alors, comment pouvait-on lui cracher dessous et comment pouvait-on le crucifier, comme vous le prétendez? Comment Jésus peut-il être Dieu s'il a adoré Dieu comme tout autre mortel? Luc 5:16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Jésus fut tenté par Satan pendant 40 jours. Luc 4:1-13. Mais dans Jacques 1:13, on peut lire « Car Dieu ne peut être tenté par le mal ». Alors comment Jésus peut-il être Dieu? Nous pouvons raisonner ainsi sans cesse.
Oui, moi-même je ne peux le comprendre, mais nous devons l'accepter aveuglément.
N'est-ce pas une contradiction avec la Bible qui dit qu'il faut tout examiner? 1 Thessaloniciens 5:21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.
Je suis vraiment confus.
Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 14:33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Les doctrines créées par l'homme sèment la confusion. Jésus, est-il fils de Dieu?
Oui, lisez dans Matthieu 3, verset 17, lorsque Jésus fut baptisé par Jean. « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Vous ne devez pas comprendre le mot « fils » littéralement, car beaucoup de prophètes ainsi que nous, les hommes, sommes aussi appelés fils et enfants de Dieu dans la Bible. Lisez Exode 4, 22.
« Tu, Moïse, diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. »
Voici Jacob, Israël qui est son premier-né. Lisez maintenant 2 Samuel 7, 13, 14. Ou 1 Chronique 22, 10.
« Ce sera lui, Salomon, qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. »
Ce verset sème la confusion si vous lisez Jérémie 1:9. « Je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. » Dans Exode 4:22, comment on tient de voir Israël aussi appelé le premier-né? Alors qui est réellement le premier-né, Israël ou Ephraïm? Les gens ordinaires peuvent aussi être appelés enfants de Dieu. Lisez Deutéronome 14:1.
Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu.
Les gens ordinaires peuvent même être appelés premiers-nés. Lisez Romains 8:29.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
S'ils sont tous premiers-nés, alors qui est Jésus?
Il est le seul Fils engendré par Dieu.
Bien avant la naissance de Jésus, Dieu a dit à David, Psaume 2:7, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » David est donc aussi un fils engendré par Dieu. Le son de fils de Dieu n'est pas littéral, mais métaphorique. Cela peut être chaque personne qui est aimée par Dieu. Jésus a aussi dit que Dieu n'est pas seulement son père, mais aussi votre père. Matthieu 5:45 et 5:48.
Afin que vous soyez fils de votre Père, et soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Vous verrez donc qu'il est cité dans plusieurs passages dans la Bible, fils de Dieu, ce qui signifie amour et affection, proche de Dieu et ce qui ne s'applique pas uniquement à Jésus. Vous verrez fils et fille de Dieu,
2 Corinthiens 6, 18. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En raison de ces passages et bien d'autres, il n'y a aucune raison pour laquelle Jésus devrait être considéré comme fils de Dieu, que ce soit dans le sens littéral ou unique.
Mais il n'a pas de père, c'est pourquoi il est fils de Dieu.
Alors pourquoi ne considérez-vous pas Adam comme fils de Dieu? Il n'avait ni père ni mère, et il est appelé fils de Dieu, dans Luc 3, 38. 7. Fils d'Adam, fils de Dieu. Lisez Hébreux 7, 3.
Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. Il demeure sacrificateur à perpétuité.
Qui est-il? La réponse se trouve dans Hébreux 7, 1. Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu, très haut, qui est alors au-devant d'Abraham. Il est plus unique que Jésus ou Adam. Pourquoi n'est-il pas considéré comme étant fils de Dieu ou Dieu lui-même?
Comment appelez-vous Jésus alors?
Nous, les musulmans, l'appelons Jésus, fils de Marie.
Personne ne démentira cela.
Oui, c'est simple et personne ne peut le nier. Jésus s'appelait fils d'homme et refusa d'être appelé fils de Dieu. Lisez Luc 4, 41.
Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant « Tu es le fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ.
Il est clair ici qu'il refusa d'être appelé fils de Dieu. Il le refusa à nouveau dans Luc 9, 20 et 21, et chargeait même ses disciples.
« Et vous, les disciples ?» leur demanda-t-il, Jésus. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Le Christ, fils de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne.
Jésus, qui était le Messie attendu comme prophète, fut élevé du rang de prédicateur au degré de fils de Dieu et ensuite du rang de maître au degré de Dieu lui-même. Lisez Jean 3, 2, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Jean 6, 14. Les gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Jésus est aussi appelé prophète dans Jean 7, 40, Matthieu 21, 11, Luc 7, 16, Luc 24, 19, dans Actes 9, 20. Sitôt il, Paul prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Vous pouvez en conclure que les premiers chrétiens utilisaient toujours des synagogues, mais que lorsque plus tard la chrétienté a dévié de l'apprentissage originel de Jésus, les églises furent rétablies, Paul, Barnabé et les gentils, c'est-à-dire les païens, furent bannis des synagogues étant accusés de blasphème, profanation, voire Actes 13, 50, Actes 17, 18 et Actes 21, 28. Luc 2, 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Saint-Coran mentionne dans la sourate les femmes, verset 157, que Jésus n'a pas été crucifié. Et à cause de leurs paroles, celles les Juifs, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils, les Juifs, ne l'ont ni tué, ni crucifié. Croyez-vous toujours qu'il est mort sur la croix?
Oui, il est décédé, et ensuite il a été ressuscité.
Nous sommes tous d'accord que personne n'a vu le moment de sa résurrection. Ils ont trouvé le sépulcre où on a déposé Jésus vide et on a conclu qu'il faut ressusciter parce que les disciples et d'autres témoins l'ont vu en vie après sa prétendue crucifixion. Ne pourrait-il pas être possible qu'il ne soit pas mort sur la croix, comme il est mentionné dans le Coran?
Comment pouvez-vous prouver cela?
Regardons les passages dans la Bible qui soutiennent mes propos. Est-ce que vous attachez plus d'importance à ce qu'a dit Jésus ou aux huit dires des disciples, apôtres et autres témoins?
Comment pouvez-vous prouver cela?
C'est en concordance avec ce que dit Jésus, Matthieu 10, 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur.
Mais Jésus lui-même a dit qu'il ressusciterait des morts, Luc 24, verset 46. Et il leur dit... Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour.
Le terme « souffrir » est souvent exagéré dans la Bible et défini comme mort. Comme Paul l'a dit, 1 Corinthiens 15-31, chaque jour je suis exposé à la mort, c'est-à-dire je souffre chaque jour. Voici quelques preuves. Premièrement, sur la croix, Jésus a imploré l'aide de Dieu. Matthieu 27-46, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans Luc 22-42, disant, « Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Cette coupe est la coupe de la mort. Deuxièmement, la prière de Jésus pour ne pas mourir sur la croix fut exaucée par Dieu, selon Luc, Hébreux et Jacques. Alors, comment aurait-il pu mourir sur la croix? Luc 22-43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'est donc l'ange qui est venu pour lui assurer que Dieu ne le laisserait pas dans l'abandon. Hébreux 5-7. C'est lui, Jésus, qui, dans les jours de sa chair, présenta un grand cri avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et qui fut exaucé à cause de sa piété. Les prières de Jésus furent exaucées, ce qui veut dire que Dieu y a répondu favorablement. Jacques 5-16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jésus a dit, Matthieu 7-7-10, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si toutes les prières de Jésus furent acceptées par Dieu, y compris celle de ne pas mourir sur la croix, alors comment aurait-il pu mourir sur la croix? Troisièmement, ses jambes n'ont pas été brisées par les soldats romains. Jean 19, 32-33. Les soldats virent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui, s'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Pouvez-vous vous fier à ces soldats pour pouvoir prononcer la mort de Jésus, ou voulaient-ils le sauver parce qu'ils savaient qu'il était innocent? Quatrièmement, si Jésus est mort sur la croix, son sang aurait dû coaguler et il ne devrait pas y avoir du sang jaillissant de son corps lorsqu'on l'avait percé le côté. Mais l'évangile mentionne du sang et de l'eau sortir de côté. Jean 19, 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Cinquièmement, lorsque les pharisiens demandèrent à Jésus un miracle de sa vraie mission, il répondit, Matthieu 12, 40, « Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Négligez maintenant le facteur du temps, qui n'est d'ailleurs pas 3 jours et 3 nuits, mais un seul jour, samedi, en journée seulement, et de nuit, la nuit du vendredi et celle du samedi. Jonas était-il vivant dans le ventre de la baleine ?»
Oui.
Jonas était-il encore vivant lorsque la baleine l'avait vomi?
Oui.
Alors Jésus était bien vivant comme il l'avait prédit. Sixièmement, Jésus a dit lui-même qu'il n'est pas décédé sur la croix. Très tôt dimanche matin, Marie de Magdala se rendit au sépulcre qui était vide. Et il vit quelqu'un debout qui rassemblait à un jardinier. Après avoir parlé avec lui, il se rendit compte que l'homme en question était Jésus et voulut le toucher. Jésus dit, Jean 20, 17, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ne me touche pas. » Peut-être parce que sa blessure lui faisait du mal. « Je ne suis pas encore monté vers mon Père » veut dire qu'il était toujours vivant, pas encore mort. Car si quelqu'un meurt, il retourne au Créateur. Ceci est la preuve la plus forte admise par Jésus lui-même. Septièmement. Après la prétendue crucifixion, les disciples croyaient qu'il ne s'agissait pas du même Jésus, mais d'un Jésus spiritualisé, parce que les corps ressuscités sont spiritualisés.
Comment pouvez-vous être sûr que les corps ressuscités sont spiritualisés?
C'est ce que dit Jésus lui-même dans la Bible. Il dit ils sont semblables aux anges.
Où dans la Bible?
Dans Luc 20, 34-36, Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle, à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Après Jésus les a convaincus qu'il était la même personne en leur faisant toucher ses mains et ses pieds, lorsqu'ils ne le croyaient toujours pas, il leur a demandé de la viande pour leur montrer qu'il mangeait toujours comme tout être humain. Lisez Luc 24, 36, 43. Tandis qu'il, les disciples, parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Quand, dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Huitièmement, si vous croyez toujours qu'il est mort sur la croix, alors il était un faux prophète et maudit par Dieu selon ses passages de Deutéronome 13:5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Deutéronome 21, 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui est pendu et un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Croire à sa mort sur la croix, c'est le discréditer en tant prophète. Les Juifs ont prétendu avoir tué Jésus sur la croix et ils ont, en conséquence, représenté son allégation de prophète comme fausse. Les chrétiens croient que la crucifixion est nécessaire pour leur rémission des péchés et ils doivent, par conséquent, aussi accepter la malédiction de Jésus. Cette croyance chrétienne s'oppose à l'enseignement de la Bible dans Osée 6:6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est aussi en opposition avec ce qu'a enseigné Jésus, Matthieu 9, 13. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». À nouveau Jésus dit, Matthieu 12, 7, « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. »
Pourquoi est-ce que les gens croient alors à la résurrection?
C'est Paul qui a enseigné la résurrection. Acte 8. Elle est une juive, disait, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendant, Paul annonçait Jésus et la résurrection, disait, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Paul, qui n'a jamais vu Jésus, a d'ailleurs admis que la résurrection était dans son évangile. 2 Timothée 2:8. Souviens-toi de Jésus-Christ. Issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Il fut aussi le premier à proclamer Jésus, fils de Dieu, acte 9, 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu. Le christianisme n'est donc pas l'enseignement de Jésus, mais celui de Paul.
Mais Marc 16, verset 19, mentionne que Jésus fut enlevé au ciel et qu'il s'assit à la droite de Dieu. Le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.
Comme je vous l'ai dit lors de la discussion sur la Sainte Bible, la partie Marc 16, verset 9-20, a été supprimée dans certaines Bibles, voire la note en bas de page dans la version standard révisée, The Revised Standard Version, la nouvelle Bible standard américaine, The New American Standard Bible, et la nouvelle traduction mondiale des Saintes Écritures, The New World Translation of the Holy Scriptures. Si vous croyez toujours que Jésus est divin, parce qu'il fut enlevé au ciel, alors pourquoi n'acceptez-vous pas la divinité d'autres prophètes qui furent aussi enlevés au ciel?
Qui sont-ils?
Élie, deuxième roi, 2:11-12. Et Élie monta au ciel, dans un tourbillon, Élisée regardait et criait, et il ne le vit plus. Enoch aussi fut enlevé au ciel par Dieu. Genèse 5:24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prie. Ceci fut aussi répété dans Hébreux 11:5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréé de Dieu.
La rémission des péchés à travers la crucifixion n'est donc pas l'enseignement de Jésus ?
La doctrine de la rédemption qui fut acceptée par l'Église 3 ou 4 siècles après que Jésus eut quitté la terre. Cette doctrine contredit même la Bible comme le montrent ces passages. Deutéronome 24:16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. Jérémie 31:30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Ézéchiel 18:20. L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Adam et Ève furent donc responsables pour leur propre péché, un péché qui a d'ailleurs été pardonné par Dieu, selon la version musulmane.
Mais ces exemples se trouvent dans l'Ancien Testament.
Lisez ce que dit Jésus dans Matthieu 7, 1 et 2.
Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
Lisez 1 Corinthiens 3, 8.
Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Mais nous croyons au péché originel.
Voulez-vous vraiment que je vous prouve que les enfants naissent sans péché ? Lisez Matthieu 19:14.
Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. »
Chacun de nous naît donc sans péché, et tous les enfants font partie du royaume des cieux. Saviez-vous que c'est Paul qui abolit la loi mosaïque ? Lisez Actes 13:39.
Et que quiconque croit est justifié par lui, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse.
Permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi croyez-vous à la résurrection alors que Paul lui-même, qui n'a jamais vu Jésus, admet que c'est son évangile?
Où est-ce indiqué?
Lisez 2 Timothée 2:8.
Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Mais pourquoi alors devrions-nous croire qu'il fut crucifié et ressuscité des morts?
Moi-même, je l'ignore. L'islam est basé sur la raison et est l'enseignement pur de tous les prophètes de Dieu, et n'est pas contaminé par le paganisme et la superstition.
C'est ce que je recherche.
Pourquoi alors ne pas faire la shahada, ou l'attestation de foi, d'abord en français puis en arabe? Laissez-moi vous aider à le prononcer.
J'atteste qu'il n'est d'autre Dieu que Dieu, qui n'a aucun associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
Oui, mais pour le musulman, il n'est pas nécessaire de l'apprendre à travers la Bible. Quand vous avez étudié la Bible, j'aimerais en discuter avec vous la prochaine fois.